France Inter.
Le journal, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. RATP, aiguilleur du ciel, à qui le tour avant les Jeux Olympiques? Les éboueurs viennent de dégainer un préavis de grève comme Sudrail en Ile-de-France. Coup de pression pour obtenir des primes conséquentes pour les Jeux. La une ce matin, c'est aussi ce nouveau plan de lutte contre la prostitution dévoilé aujourd'hui. Le gouvernement veut plus de répression contre les proxénètes et les clients. À Gaza, toujours pas de trêve. On fera le point sur ces hôpitaux de campagne qui permettent d'assurer les soins. On s'intéresse aussi à ces Français musulmans partis vivre à l'étranger parce qu'ils se sentent stigmatisés en France. Et puis nous serons à Marseille, à la Cité Radieuse de Le Corbusier. Elle accueille aujourd'hui le défilé Chanel, collection croisière.
France Inter.
Chacun cherche sa prime à la hauteur de l'événement. Les Jeux Olympiques cet été, moyen de pression pour négocier dans les services publics notamment. Et c'est donc autour des cheminots d'Île-de-France. Ils viennent de déposer un préavis de grève pour le 21 mai sur les lignes RER et Transilien, Maxime Deps.
Selon ce tract de Sudrail, la SNCF, sa direction, se contenterait de distribuer des miettes aux agents pour les JO. Discussion toujours en cours et table ronde prévue le 22 mai prochain. C'est d'ailleurs pour ça que la date du 21 a été cochée pour cette grève francilienne, laquelle s'inscrit dans un contexte où la RATP a de son côté déjà en partie dévoilé son jeu. Les conducteurs de métro toucheront a priori, sous condition, une somme allant de 1600 à 2500 euros durant les Jeux. Alors pourquoi pas autant pour les conducteurs RER et Transilien de la SNCF. La SNCF, où la base était fixée au départ à 50 euros brut par jour de présence cet été, Sudrail demande le double en net. Repos compris. À la CGT, certains estiment qu'il faut aller au maximum vu les cadences, les flux de voyageurs attendus, quand d'autres seraient plutôt à freiner. Attention à la course à l'échalote, s'inquiète un syndicaliste. Gonfler l'enveloppe, c'est bien, mais ce n'est pas, je cite, du pognon en veux-tu en voilà sûr de moi qui réglera la question du train au quotidien. Il faudra aussi penser à l'après-JO.
Maxime Deps, hier aussi, préavis des éboueurs franciliens. Pour toute la durée des Jeux, ils réclament une prime exceptionnelle de 1900 euros. Et à l'approche des Jeux Olympiques, là aussi, comment mieux lutter contre la prostitution et l'exploitation sexuelle? Le gouvernement présente aujourd'hui un nouveau plan pour mieux appliquer la loi de 2016 qui pénalise les proxénètes et les clients, Charlotte Pirret, mais plus les prostituées.
Une vingtaine de mesures pour tenter de mieux et différemment lutter contre la prostitution. À commencer par rappeler la posture abolitionniste de la France, un des rares pays européens, avec la Suède notamment, a refusé de faire de la prostitution un métier comme les autres. Dès lors, mieux lutter implique une plus grande répression, certes des proxénètes, mais aussi des clients. C'est encore très peu le cas. Et lutter différemment pour s'adapter à sa dimension numérique, via les sites internet ou applications de rencontres, à ce qu'on appelle la prostitution logée et la nécessité de mettre en garde des sociétés type Airbnb ou Gîte de France, plus encore dans la perspective des Jeux Olympiques, mais aussi, voire surtout, l'immense défi des mineurs. Près d'un tiers des 40 000 victimes de la prostitution en France et un nombre en constante augmentation, il a presque doublé en 10 ans. Des mineurs qui portent plus que les autres encore l'une des caractéristiques communes à toutes les victimes de prostitution, la vulnérabilité. Ce qui fait dire à des acteurs impliqués sur ces questions qu'il manquera aussi vraisemblablement dans ce plan dévoilé aujourd'hui la prise en charge de volets comme le handicap ou les personnes en situation irrégulière.
Charlotte Pirret, la France championne d'Europe de l'attractivité. C'est la bonne nouvelle du jour. Pour la cinquième année consécutive, les projets d'investissements étrangers y sont plus nombreux qu'au Royaume-Uni et en Allemagne. Près de 1200 projets en 2023 pour 40 000 emplois créés.
Et on y reviendra dans une dizaine de minutes dans l'histoire économique avec Emmanuel Duteil. Et vous verrez que le tableau n'est pas si rose. France Inter, 6h34, le Hamas doit dire oui. Les mots du chef de la diplomatie américaine qui fait tout ce qu'il peut pour obtenir une trêve à Gaza.
Anthony Blinken à Jérusalem hier, alors qu'on attend toujours la réponse de l'organisation palestinienne à la proposition de cesser le feu négocié avec Israël. Il a aussi redit son opposition à une offensive israélienne sur Rafah, dans le sud de l'enclave. Plus au nord, des ONG tentent de réinvestir l'hôpital Nasser de Khan Younes pour offrir des soins aux centaines de milliers de personnes qui pourraient y être évacuées. 11 hôpitaux seulement fonctionnent partiellement dans toute la bande de Gaza. Étienne Monin, les soins sont désormais essentiellement assurés dans des hôpitaux de campagne.
Médecins sans frontières fait partie des trois ONG qui essayent de remettre l'hôpital Nasser sur pied. Les bâtiments ont été au centre des combats pendant 2 mois. Michel Lacharité est responsable des opérations d'urgence à MSF.
L'aile médical où MSF avait son activité pour les brûler a lui-même été touché par un tir d'artillerie.
D'ici une dizaine de jours, malgré les difficultés, l'ONG espère remettre en route les urgences, la chirurgie orthopédique et les soins pour les brûler. C'est une course contre la montre pour être prêt en cas d'offensive sur Rafah.
On est en train de faire les inventaires et d'essayer de voir ce dont on a besoin et qu'est-ce qu'on peut apporter très rapidement en termes de préparation à l'offensive et d'être capable d'accueillir des blessés.
Mais aujourd'hui, la majorité des lits à Gaza se trouvent dans les hôpitaux de campagne. Ils ont été montés par des ONG ou des pays. Ils ont le soutien des Israéliens. Michel Lacharité.
Nous avons dû évacuer au cours des derniers mois à 9 reprises des structures hospitalières pour des raisons de sécurité, parce qu'ils étaient touchés, parce qu'ils étaient sommés d'évacuer. Nous arrivons aujourd'hui à la conclusion que la seule façon de travailler, c'est d'amener un hôpital de campagne.
MSF travaille donc en parallèle à la mise sur pied de 2 hôpitaux de campagne dans le centre de l'enclave.
Étienne Monin, la Russie a usé d'armes chimiques contre les soldats ukrainiens. Accusation des États-Unis qui parle d'une molécule, la chloropicrine, aussi utilisée comme pesticide pour déloger les forces ukrainiennes et avancer sur le front. Autre accusation signée Human Rights Watch, l'armée russe aurait exécuté des dizaines de soldats ukrainiens faits prisonniers ou qui s'apprêtaient à se rendre.
La France, tu l'aimes, mais tu la quittes.
C'est le titre d'un livre qui fait beaucoup de bruit en ce moment. 3 chercheurs y racontent les destins de Français musulmans partis vivre à l'étranger parce qu'ils se sentent discriminés et stigmatisés. 140 entretiens approfondis à partir d'un échantillon d'un millier de personnes. François Ventéjou, vous avez interrogé quelques-uns de ces exilés des dernières années.
Au début des années 2000, Sophie travaille en CDI comme diététicienne dans une multinationale à Paris. Elle vient de se convertir à l'islam et rapidement, elle comprend que sa religion pose problème.
On m'a dit, là, tu peux pas vraiment jeûner parce que tu comprends, faut qu'on mange ensemble et puis avec les clients ou avec les... C'est assez sournois la façon dont on vous le dit pas, on vous dit pas, c'est un problème. Mais il y a ce malaise en fait.
À 22 ans, elle décide de changer d'air, direction le Canada. Et là, elle découvre une mentalité aux antipodes.
Tu viens avec ce que tu es et on t'accueille comme tu es. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on le vit après beaucoup d'années en France, on se rend compte que ça n'a pas de valeur.
Un regard de défiance qui s'est exacerbé avec les attaques contre Charlie Hebdo, d'après Ahmed.
Par exemple, moi, au travail, on m'a demandé de me justifier sur ce que j'en pensais de ces attentats-là. Donc, dès qu'il se passait quelque chose, il fallait que, en tant que musulman, je dise si j'étais choqué de ce qui venait de se passer, alors que c'est des choses abominables.
Depuis son déménagement en 2018, il vit et travaille au Qatar. Et comme lui, beaucoup de Français musulmans ont quitté leur pays après ces attentats. Olivier Esteves est l'un des auteurs du livre.
On a grosso modo 68% de nos enquêtés qui ont quitté la France depuis 1 à 5 ans.
S'il n'existe pas de chiffre officiel, selon lui, ces départs se comptent en plusieurs dizaines de milliers.
François Ventéjou, Bourgogne, Île-de-France, Normandie, la trajectoire des orages de la soirée et de la nuit, forte pluie et grêlons sur les vignobles de Chablis. En région parisienne, le trafic a été suspendu à Orly et Roissy, une trentaine de vols déroutés pendant une demi-heure. Les orages se sont ensuite évacués par la Manche. Loin de la Fashion Week et de Paris, Chanel investit Marseille et un paquebot de béton pour présenter sa collection croisière. Aujourd'hui, c'est la cité radieuse de Le Corbusier, emblématique bar des années 50. Le bâtiment est classé. Le défilé aura lieu sur le toit devant 500 invités triés sur le volet. Maya Baldoureau-Fredon, ça fait beaucoup d'agitation pour les habitants du quartier.
Il y a les heureuses.
On dit toujours que la mode, c'est pour Paris. Eh bien, pour la première fois, je suis honorée que la mode aussi passe par Marseille.
Formidable. Dans la mesure où la nature est nettoyée avant cet événement, et qu'il faut un événement comme ça pour qu'on prenne conscience que la nature est importante, moi je dis, allez, tous les jours un défilé Chanel.
Et il y a celles qui auraient préféré éviter les flashs des photographes.
Le parking est partiellement interdit. Ça prend énormément de place et d'embarras.
15 jours, vous avez tout un quartier qui est bouclé, quoi. C'est pas normal.
Effectivement, au pied de la cité radieuse, les agents de sécurité filtrent les entrées. C'est que Marseille est devenue tendance. Mais pour Bruno Pavlovski, président de Chanel Mode, ça va au-delà.
Je pense que c'est plus que tendance, cette position unique de Marseille par rapport à la Méditerranée, par rapport à la création, par rapport à la jeunesse. Il y a plein de choses qui nous ont attirés, cette énergie créative, les artistes qui ont été une source d'inspiration pour la collection.
Qui sera dévoilée aujourd'hui, le premier défilé est à 10h, le second
à 16h.
Enfin, tout va donc se jouer mardi prochain pour le PSG. Aura-t-il sa place en finale de Ligue des Champions après la défaite d'hier soir en match aller des demi 1-0 dans le stade de Dortmund? L'égalisation plusieurs fois frôlée mais jamais atteinte. Mardi, les Parisiens devront donc gagner avec 2 buts d'écart au Parc des Princes pour filer à Wembley en finale.
Florence Paracuelos, vous revenez pour le journal de 8h. Le grand entretien de France Inter portera ce matin sur les mobilisations pro-palestiniennes dans les universités aux États-Unis et en France. Mobilisations qui n'ont clairement pas la même ampleur. 3 invités seront là pour nous éclairer à 8h20.